Les taux d'intérêt au plus bas, manifestation du parasitisme achevé du capitalisme. Mercredi 30 janvier, devant la menace annoncée de toutes parts d'une entrée en récession de l'économie américaine, la Banque centrale des États-Unis, la Fed, a annoncé une pause dans le relèvement principal de taux directeurs. La Fed, soucieuse de rassurer les marchés financiers sur leur possibilité d'accéder à l'argent pas cher, a promis qu'en 2019, ces taux resteraient à 2,5%, soit le plus bas taux pratiqué par la Banque centrale en fin de cycle, à la veille d'une récession, depuis au moins 40 ans. En Europe, la même tendance se confirme. La Banque centrale européenne, la BCE, si elle a réduit la quantité d'argent qu'elle injecte dans les marchés financiers, maintient ses taux directeurs à 0%. Il en va de même au Japon et au Royaume-Uni. Au total, cela fait près de 10 ans, du jamais vu, que les taux directeurs des banques centrales des pays riches restent au plus bas, malgré tous les inconvénients que cela entraîne. Une telle situation n'est pas fortuite. Elle est la manifestation, à sa manière, de l'impasse dans laquelle se trouve l'économie capitaliste. Taux d'intérêt et taux de profit. Contrairement au taux de profit des entreprises dont il est difficile de dégager de la comptabilité bourgeoise une estimation, les taux d'intérêt s'affichent, eux, quotidiennement, en clair, sur tous les écrans du monde, anxieusement suivis par les commentateurs économiques et les boursicoteurs de tout poil. Cet affichage sème nombre de fausses idées sur les richesses et leur création, sur le capital et le profit. Les possesseurs d'un livret d'épargne ou d'un plan d'épargne logement sont assimilés à des capitalistes, à des financiers valorisant leurs économies. Il n'y aurait que des différences d'échelle. Du point de vue de la classe dominante, cette confusion a la vertu de masquer la source de toute création de richesse, l'exploitation du travail salarié. C'est en réalité un vieux débat. Dans plusieurs chapitres du Capital, Marx, Le Capital, livre 3, chapitres 21, 22 et suivants, Marx discute des intérêts et du profit. Il commence par distinguer soigneusement. D'un côté, les capitalistes financiers, ceux qui disposent de capitaux de prêt, de sommes d'argent qu'ils peuvent prêter. De l'autre, les capitalistes industriels, qu'ils qualifient d'actifs, susceptibles d'emprunter ces capitaux de prêt, de les convertir en moyens de production, en marchandises et en salaires. C'est là seulement que cet argent devient réellement capital, générant de la plus-value, du travail non payé, généré par l'exploitation de la force de travail des travailleurs, accumulée au cours du processus de production. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les industriels ont souvent une activité financière que cette distinction n'existe plus. Ils agissent en fait soit en industriel quand ils font produire des marchandises, soit en financier quand ils jouent le rôle de banquier. Cette distinction permet de comprendre que la source de toute nouvelle richesse se trouve dans la plus-value, les intérêts étant prélevés sur ses profits par le capitaliste industriel pour rémunérer le capitaliste financier de son prêt. Ainsi, il n'y a pas de double source de création de richesse, mais partage du profit en intérêts et en profits restant au sein de l'entreprise, profit d'entreprise. Même s'il y a des passerelles entre elles, les sphères de la finance et de la production de marchandises restent distinctes. Quand les financiers prêtent à des financiers, il n'y a pas de création de richesse. Il n'y a là qu'un transfert d'une richesse créée ailleurs dans la production de main en main, en fonction du rapport de force et des contrats conclus entre eux. Ainsi, globalement, la finance n'absorbe de telle qu'une fraction de la plus-value extorquée aux travailleurs dans la production. Reste à savoir dans quelle proportion se fait ce partage, comment sont déterminés les taux d'intérêt eux-mêmes. Dans ces mêmes chapitres du Capital, Marx affirme ce que 150 ans de fluctuations ultérieures confirmeront, qu'il, entre guillemets, n'existe aucun taux naturel de l'intérêt. Il n'existe point de loi sur le partage, hormis celle dictée par la concurrence. Dans la production, la plus-value, qui donnera le profit une fois les marchandises vendues, est déterminée par le degré d'exploitation. Dans le monde des financiers, c'est pour l'essentiel le marché qui règle les affaires. Le taux d'intérêt, la valeur du capital argent, est donc réglé par l'offre et la demande du capital de prêt, c'est-à-dire la concurrence entre prêteurs et emprunteurs sur les marchés financiers, la demande consistant en besoin de capitaux argent de la part des emprunteurs, tandis que l'offre est la masse d'argent disponible entre les mains des prêteurs. La seule limite supérieure du taux d'intérêt étant celle d'un taux absorbant tout le profit de l'industriel. Le rôle des banques centrales. C'est le marché qui fixe les taux d'intérêt. Mais sur ce marché, l'intervention des banques centrales est permanente. Elles peuvent même donner l'impression d'y faire la pluie et le beau temps. En réalité, les banques centrales défendent sur le marché la continuité du système lui-même, c'est-à-dire les intérêts généraux des banquiers et autres capitalistes de la finance. Elles interviennent au travers de quelques outils, deux ou trois taux directeurs, qu'elles font varier en fonction de la phase du cycle de l'économie capitaliste, les remontant lors de la phase d'expansion et les réduisant dans les phases de dépression. Ces taux directeurs déterminent les taux d'intérêt auxquels les banques et les institutions accréditées peuvent se financer au jour le jour, à court terme, auprès de la banque centrale. Ces banques prêtent à leur tour ces capitaux aux entreprises, aux États, se prêtent entre elles, mais à un taux déterminé par le marché, en fonction de l'offre et de la demande de capitaux, de la durée du prêt, de l'inflation estimée sur la durée du prêt, et, données essentielles, du caractère plus ou moins spéculatif de l'opération, ainsi que des effets d'aubaine. Ainsi, au début de l'année 2019, l'État allemand pouvait profiter de l'inquiétude des banques et des institutions financières face au ralentissement général de l'économie pour emprunter sur les marchés à 10 ans à 0,07%, voire à taux négatif pour des durées inférieures, les emprunts d'État allemand étant considérés comme des valeurs refuges garanties par la solidité de l'État allemand. L'État italien, lui, devait s'acquitter de taux variant autour de 3%, beaucoup plus, mais bien peu finalement, en comparaison des taux ponctionnant les finances des États grecs, turcs ou argentins. Les taux directeurs fixés par les banques centrales doivent cependant correspondre à ce que le marché est prêt à accepter. Les banques qui empruntent à court terme auprès de la banque centrale prêtent ces mêmes capitaux à long terme sur 10, 20 ou 30 ans. Une partie de leurs bénéfices vient de la différence de taux entre les emprunts à court terme et les prêts à long terme. Elles ont donc intérêt à ce que les taux à long terme restent supérieurs aux taux à court terme. Or, début décembre, les marchés, anticipant la récession, ont fait baisser les taux à long terme, certains devenant inférieurs à des taux plus courts. On peut ainsi dire, sans se tromper, que ce sont les marchés qui ont imposé à la Fed sa décision de suspendre la hausse de ses taux. Aussi, les taux directeurs ne le sont-ils que dans leur nom, tant il est difficile de dire s'ils dirigent ou s'ils sont dirigés. Lors des crises, les taux directeurs sont des instruments de politique monétaire essentiels pour la classe capitaliste. En période de dépression, les banques centrales baissent les taux directeurs afin de permettre aux capitalistes en difficulté de trouver facilement de l'argent, dans une situation où les échanges entre financiers se raréfient, où le crédit se bloque, les acteurs se méfiant les uns des autres. C'est la version moderne de la planche à billets. Les banques centrales jouent ainsi le rôle de pompiers du système financier. Elles ont même été créées pour cela, les banquiers étant conscients de l'instabilité de leur système et de la nécessité d'un, entre guillemets, prêteur en dernier ressort, capable de leur sauver la mise. C'est ce qu'elles firent après le krach de 1929 à deux reprises dans les années 1970, puis après celui de 1987, en réduisant franchement leurs taux directeurs. Et lors de la crise financière de 2002, elles utilisèrent le même remède pendant plus de 2 ans. C'est sur ce terreau d'argent quasiment gratuit que s'est formée la gigantesque bulle qui a éclaté en 2008. Les banques centrales ont alors de nouveau ramené leur taux d'intérêt à zéro, mais le krach de 2008 s'est révélé sans aucune commune mesure avec les précédents. La simple baisse des taux n'ayant pas suffi à réactiver le crédit, les banques centrales ont inventé de nouvelles mesures, dites non conventionnelles, pour injecter toujours plus d'argent dans le système. En période de relative expansion avec la promesse de davantage de profits, les entreprises cherchent à nouveau des capitaux de prêt et les taux d'intérêt ont tendance à remonter pour le plus grand bonheur des banques. Et les banques centrales accompagnent le mouvement. Depuis les années 1980, elles ont un objectif d'inflation, en général de la maintenir inférieure à 2%, assez pour rogner les salaires, pas plus pour éviter tout emballement du système. En remontant leurs taux, elles se donnent aussi les moyens d'intervenir pour la phase suivante. Ces moyens consistant en leur capacité à rouvrir les vannes du crédit en faisant redescendre leurs taux. Ainsi, à la veille de la crise de 2001, le taux directeur de la Fed était de 6,5%. Il fut ramené à 1% en 2003, il remonta à 5,25% en 2007 pour redescendre à 0% en 2009. Depuis 2016, il remonte lentement, mais semble bien désormais devoir plafonner à 2,5% à la veille de la récession américaine annoncée de toutes parts, ce qui fait dire à certains commentateurs que, entre guillemets, si la récession survient d'ici peu, la Fed ne disposera pas de la marge de manœuvre suffisante pour mener, en abaissant ses taux d'intérêt, la relance qui serait nécessaire. James Bradford Delon, entre guillemets, États-Unis, la prochaine crise arrive et on sait d'où elle vient. Les Échos du 9 janvier 2019. Des variations cycliques. La concurrence entre prêteurs et emprunteurs qui détermine les taux d'intérêt dépend non seulement de l'activité économique des uns et des autres, de leurs capacités et de leurs besoins, surtout du rapport de force entre eux, mais elle dépend aussi du cycle de l'économie en général. Ainsi, Marx notait il y a 150 ans, entre guillemets, qu'on verra qu'un niveau peu élevé de l'intérêt correspond aux périodes de prospérité et de profit extra. Que la hausse de l'intérêt correspond à la transition entre la prospérité et son opposé, et qu'enfin le maximum d'intérêt, jusqu'à l'extrême limite de l'usure, à la crise. Marx, Le Capital, chapitre 22 du livre 3. À partir de l'analyse des crises de 1847 et de 1857, des cycles du crédit et des taux d'intérêt, Marx souligne le rôle du crédit dans le cycle de l'économie capitaliste. Quand le capital est engagé, le cycle de production pas achevé, les marchandises en cours de fabrication, les industriels ne réussissent à traverser le cycle que grâce au crédit accordé en vue des ventes futures. Mais dans sa description, il distingue le crédit commercial que les capitalistes occupés dans la reproduction du capital s'accordent mutuellement, du crédit bancaire. Le crédit commercial fait appel aux lettres de change, aux titres de créance à échéance déterminée, tandis que le crédit bancaire fait usage de capital porteur d'intérêt. Dans la phase du cycle industriel qui suit immédiatement une crise, le taux d'intérêt est au plus bas, entre guillemets, indice d'une multiplication du capital prêtable, précisément en raison de la contraction et de la paralysie du capital industriel. Dans la phase de reprise qui suit, entre guillemets, le taux d'intérêt reste encore peu élevé, même s'il s'élève au-dessus de son niveau le plus bas. Marx précise plus loin que le taux d'intérêt peu élevé de cette partie du cycle signifie que, entre guillemets, le crédit commercial encore solide, volant de ses propres ailes, n'a besoin que dans une faible mesure du crédit bancaire. Ensuite, l'intérêt monte et atteint son maximum, ouvrez les guillemets. Dès qu'éclate la nouvelle crise, le crédit cesse brusquement. Les paiements sont suspendus, le procès de production paralysé et aux exceptions près que nous avons déjà notées, on constate, parallèlement à une pénurie presque totale de capital de prêt, une surabondance de capital industriel sans emploi. Fermez les guillemets. Marx, Le Capital, livre 3, chapitre 30. Cette description correspond parfaitement à ce qui s'est passé entre la Deuxième Guerre mondiale et la crise des années 1970. Les taux d'intérêt sont restés au plus bas pendant les années 1950, avant de se relever au fur et à mesure que les marchés se saturaient, les entreprises investissant de plus en plus pour faire baisser les prix de leurs marchandises face à une concurrence internationale croissante. Les taux d'intérêt ont ensuite atteint des maxima sans précédent lors du déclenchement de la crise entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980, entre guillemets, lorsqu'il fallait emprunter à n'importe quel prix pour pouvoir payer. Marx, Le Capital, chapitre 22 du livre 3. Depuis, les taux d'intérêt montent et descendent au gré des crises qui se succèdent, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009, s'effondrant juste après la crise elle-même et se relevant jusqu'à la suivante. S'il y a une différence à noter entre le milieu du XIXe siècle et aujourd'hui, c'est dans la place de la finance dans l'économie capitaliste, une place qui a radicalement changé. Au milieu du XIXe siècle, les capitalistes financiers jouaient un rôle somme toute secondaire dans le financement des investissements. Ainsi, lors des entre guillemets, périodes de prospérité et de profit extra, les capitalistes industriels ne cherchaient pas d'abord à emprunter auprès des capitalistes financiers pour lancer ou développer leurs affaires. Ils avaient tendance à se financer eux-mêmes en prenant sur leur fortune personnelle ou sur les profits du cycle de production précédent pour commencer le cycle suivant. Leurs profits pouvaient suffire. De même, en dehors des crises elles-mêmes, le recours au crédit commercial entre industriels et commerçants, permettait à l'industrie de se passer, dans une certaine mesure, des capitalistes financiers. Le rapport de force sur le marché entre emprunteurs et prêteurs était ainsi défavorable aux prêteurs et les taux d'intérêt avaient tendance à rester assez bas, ainsi que l'explique Marx. Depuis la fin du XIXe siècle, le développement des monopoles, la concurrence internationale, le volume des capitaux à mobiliser pour produire, tout cela a concouru à la prééminence de la finance des banques sur l'industrie. L'autofinancement fut de plus en plus secondaire et le recours aux capitaux de prêt de plus en plus systématique. Lors des périodes d'expansion, les taux d'intérêt remontent plus rapidement que du temps de Marx. Et un mouvement de fond. Au-delà de ces variations cycliques, on peut noter depuis le début des années 1980 une baisse continue des taux d'intérêt réels. Ainsi, la moyenne des taux longs des pays du G7 est passée de 4,27% de 1985 à 1989, à 2,68% entre 2000 et 2004, à 1,85% de 2005 à 2009 et à 0,45% de 2010 à 2013. Ils n'ont guère bougé depuis. Dans les économies des pays pauvres, les taux longs réels ont également décru, passant de 11% en 1998 à 2% en 2007, pour ensuite se stabiliser. Un tel mouvement des taux d'intérêt ne peut s'expliquer que par une modification globale du rapport de force entre offre et demande de capital de prêt, une modification en fait caractéristique de la crise générale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste depuis le début des années 1980. Dans un premier temps, il faut noter que ces taux d'intérêt réels calculés à l'échelle mondiale, les spécialistes parlent d'un taux d'intérêt réel mondial, ne sont pas le fruit d'une simple opération mathématique. L'une des transformations majeures qui se sont opérées dans les années 1980 est justement l'intégration, le décloisonnement au niveau mondial des marchés financiers, permettant à l'argent collecté par les différents circuits de la finance de circuler quasiment sans obstacle entre toutes les places. Cette intégration répondait à une nécessité du système capitaliste en crise. Dès avant la crise des années 1970, les entreprises étaient à la recherche de capitaux pour soutenir la concurrence internationale croissante, empruntant alors à des taux de plus en plus élevés. La crise elle-même fut enrayée par un recours massif au crédit. Les États s'endettèrent pour soutenir leur bourgeoisie, les banquiers, les industriels. La bourgeoisie aussi eut recours au crédit pour financer ses pertes d'exploitation. Les marchés financiers du monde entier étaient en concurrence pour attirer à eux l'argent dont ils avaient besoin. Les plus forts dans cette concurrence furent les États-Unis, qui relevèrent alors plusieurs fois leurs taux directeurs pour leur faire atteindre des sommets jamais égalés. S'appuyant sur la position dominante du dollar, ils drainèrent ainsi vers eux une grande part des capitaux de prêt disponibles, asséchant le marché et plongeant par ricochet nombre de pays pauvres dans une crise de la dette dont ils ne se remirent jamais vraiment. L'intégration des marchés financiers qui suivit permit aux capitalistes de mettre toute la planète à contribution pour éteindre l'incendie capitaliste. En particulier, elle permit aux États-Unis de convertir les montagnes d'excédents d'épargne des pays asiatiques et européens en capitaux de prêts finançant son déficit public, colossal, et son économie. En connectant les marchés financiers les uns aux autres, l'offre globale de capitaux de prêts augmenta là où les capitalistes en avaient besoin, dans les pays capitalistes les plus riches. Dans l'ensemble, à partir des années 1980 et au contraire des années 1970, les taux des pays industrialisés se mirent à évoluer d'un même pas, à la fois resserrés et à la baisse. Aujourd'hui, les taux bas sur les marchés financiers sont devenus une nécessité pour le capitalisme en crise permanente. Le système financier se comporte comme un drogué. Les capitaux que les financiers empruntent auprès des banques centrales constituent la matière première avec laquelle ils font de l'argent. Les taux auxquels ils empruntent constituent en quelque sorte leurs frais de production et les taux auxquels ils prêtent leur permettent de réaliser leurs marges. Or, ces dernières années, pour sauver leur peau, les capitalistes ont emprunté à des taux très bas sur des durées pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Le remboursement des emprunts se faisant avec de nouveaux emprunts, une remontée trop brusque des taux signifierait, pour reprendre l'expression du banquier Artus, un bon sang. Il faut donc que le système réinjecte encore et toujours de l'argent pas cher. Certes, les banques centrales sont conscientes que maintenir des taux si bas n'est qu'une fuite en avant, à la source des bulles financières et d'un endettement public et privé battant tous les records et gros de dangers. Sans compter qu'elles ont besoin de regagner des marges de manœuvre pour affronter la prochaine crise. Elles cherchent donc à désaccoutumer le malade en essayant de réduire petit à petit la quantité de drogue nécessaire. C'est ainsi que la Fed a remonté prudemment ses taux et que la BCE arrête progressivement ses rachats d'actifs. Mais on l'a vu, en dernier ressort, ce sont les marchés les véritables maîtres du jeu. Les banques centrales sont ainsi condamnées à subventionner toujours et encore la finance en faisant tourner la version moderne de la planche à billets que sont les bas taux d'intérêt. Derrière les taux bas, la crise permanente. Si la finance tourne ainsi sur elle-même, c'est sur le fond, en raison de la crise permanente de l'économie capitaliste. Les marchés financiers débordent de capitaux de prêt, tandis que la demande de la part des industriels, leurs investissements, reste en berne, un rapport de force qui contribue à maintenir les taux au plus bas. Avec la crise, le volume d'argent entre les mains des financiers a considérablement augmenté. Les profits dégagés par la production, mais ne trouvant plus d'emploi dans la production elle-même, se sont accumulés dans la finance. Selon certaines estimations, les actifs financiers, qui donnent une image de cette accumulation, se sont accrus dans le monde de 12 000 à 241 000 milliards de dollars entre 1980 et 2007. Rapportés au PIB, ils auraient été multipliés par 3 en 30 ans, une tendance qui s'est encore développée depuis la crise de 2008. Financiarisation et recul de l'investissement productif dans les pays riches sont les deux faces de la même médaille. Dans les statistiques des institutions bourgeoises, les investissements peuvent se mesurer au travers de la formation brute de capital fixe, une catégorie qui englobe non seulement les investissements en machines, locaux industriels, licences, mais aussi les, entre guillemets, investissements en logement de tout un chacun. Cette mesure de l'investissement est donc loin d'être parfaite, mais c'est la seule. Les données de la Banque mondiale indiquent que la part de la formation brute de capital fixe dans le PIB a diminué de plus de 5 points dans l'ensemble des 80 pays les plus riches entre le milieu des années 1970 et aujourd'hui. Ce recul représente pour une année l'équivalent de plusieurs milliers de milliards de dollars en moins, un trou de 670 milliards de dollars rien que pour les États-Unis, 400 milliards d'euros pour un pays comme la France. Pour les États-Unis, le recul s'est fait surtout dans la dernière période depuis 2008. Mais il est manifeste pour l'ensemble des pays capitalistes avancés depuis le milieu des années 1970. Quant aux pays dits « émergents », ce que montrent les statistiques de la Banque mondiale, bien qu'elles soient sans doute encore moins fiables que pour les pays riches, c'est que leurs investissements sont loin d'avoir compensé le recul de ceux des pays industrialisés, le solde mondial étant négatif. Malgré un accès quasi illimité au crédit gratuit, l'investissement n'a pas repris. La relation entre le capitalisme financier et le capitalisme industriel est celle du parasitisme grandissant du secteur financier, absorbant sans retour les profits dégagés dans la production. L'économie capitaliste est dans une ornière dont elle est incapable de sortir. Depuis le déclenchement de la crise dans les années 1970, pour rétablir leur taux de profit, les capitalistes ont mené, et mènent toujours, une véritable guerre sociale aux travailleurs. Réduction des salaires réels, fermeture d'usines, chômage de masse, remise en cause des salaires différés, pensions de retraite et de chômage, démantèlement des services publics. La part dans la valeur ajoutée des profits avant distribution sous forme de dividendes, d'investissement ou de rachat d'actions a ainsi augmenté, passant de 5 à 24% en Europe et de 5 à 12% aux États-Unis entre 1980 et 2015, l'économie mondiale 2019, CPI, la découverte, collection, repère. Tandis que la part des salaires a baissé, passant de 68 à 60% en Europe et de 65 à 58% aux États-Unis. Diminution des capacités de consommation des masses d'un côté, hausse des profits et baisse relative de l'investissement de l'autre, la bourgeoisie accumule ses fortunes en réduisant les deux débouchés de la production, celui des biens de consommation et celui des biens de production, faisant pousser sur ce terreau bulles et instabilités financières annonçant de nouvelles crises. L'Union européenne a interrogé en 2017 les patrons européens sur ce qu'ils estiment être des obstacles à leurs investissements. Enquête EIBIS 2017 citée dans le rapport sur l'investissement 2017-2018 de la Banque européenne d'investissement. La disponibilité de financement arrive quasiment en dernier, tandis que, entre guillemets, l'incertitude quant à l'avenir arrive en premier. Il existe pourtant des dizaines de millions de chômeurs partout sur la planète qui ne demandent qu'à être utiles à la société, et l'humanité a quantité de besoins élémentaires qui ne sont pas satisfaits. Que les capitalistes, sur la base de la propriété privée, conservent le pouvoir de décider des investissements, de leur nature comme de leur ampleur, qu'ils conservent le pouvoir d'organiser et d'orienter la production, tel est le principal obstacle au développement humain. 15 avril 2019.